ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, nous allons parler système de domination, du colonialisme et de ses héritages persistants, de biais racistes et des dynamiques de pouvoir discriminatoires qui continuent d'influencer nos sociétés et nos représentations. Pour en discuter, je reçois Salomé, la Gwyn Misandre.
Oui, exactement.
C'est bien toi.
Exactement. Salomé de mon prénom et Gwyn Misandre pour mon nom militant.
Et Bim, j'aime pour les intimes, quoi.
Ouais, exactement.
Donc, tu fais partie du collectif Bambarit Fa qui explore ces questions avec une approche politique, historique et intime.
Oui.
Alors, c'est vrai que Bambarit Fa commence un peu à peser dans le game de l'antifascisme et de l'anti-impérialisme.
Oh, ça me gêne.
Alors, merci d'être venu à Canal, même si c'était pas facile, t'as vu, franchement.
Oui, j'ai un peu confirmé les stéréotypes selon lesquels les personnes noires arrivent toujours en retard.
Non mais là c'est le bus, en vrai je sais pas, il y a eu la malédiction, alignement des planètes plus les grèves de bus, franchement.
Oui, ça doit être ça. On va maintenant condamner les grèves.
Ouais c'est ça, en fait t'es venu juste pour condamner les grèves, bravo. Ouais. Ouais alors peut-être que dans un premier temps, ce serait sympa que tu te présentes quoi brièvement.
Ouais totalement, bah, pour me situer, donc moi je suis une femme noire, donc j'ai tendance à dire une lesbienne noire, pour reprendre ce contexte, cette idée de Monique Wittig que les lesbiennes ne sont pas des femmes. J'ai été adoptée et je suis entrée dans la lutte antiraciste par la lutte féministe parce que j'ai conscientisé que j'étais une personne racisée très tard et je me suis rendu compte que j'avais de grosses lacunes sur la pensée antiraciste. Et donc j'ai connu le collectif Bambarit Fa, on me l'a recommandé.
Alors justement, Bambarit Fa, je crois pas me tromper, mais ça veut bien dire tonnerre.
Ouais, exactement, ça veut dire tonnerre dans un dialecte camerounais, parce que la personne qui a fondé le collectif, son père est d'origine du Cameroun.
Alors le tonnerre c'est quoi ? C'est le résultat de l'air chauffé et dilaté par la décharge d'un éclair. Cette dilatation rapide crée une onde sonore que nous percevons comme le grondement du tonnerre. Alors c'est vrai que le son se déplace plus lentement que la lumière, à savoir 340 mètres par seconde.
Exactement.
Contrairement à la vitesse de la lumière, c'est quoi ?
La vitesse, oula, ça c'est mes vieux cours de physique.
La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. En fait, le son se déplace plus lentement que la lumière, ce qui explique le délai entre l'éclair et le tonnerre.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le tonnerre, c'est comme une image de la colère. Et on dit déjà dans la lutte féministe que la colère peut être saine, alors qu'on nous apprend dès enfant à réprimer cette colère et à la garder pour nous et à ne pas l'exprimer. Et donc non, la colère peut être saine et peut être salvatrice.
Alors justement, est-ce que vous êtes plus tonnerre qu'éclair ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez peut-être plus sur le temps long ? C'est-à-dire changer progressivement les mentalités par la vulgarisation entre autres de pas mal de concepts ? Ou alors, vous êtes plus éclair avec une démarche plus percutante, ouais, frappante ?
Bah, c'est une bonne question. Moi, je dirais qu'on fait un peu les deux. Je dirais que dans un premier temps, on a créé Bambarit Fa, qui était plutôt un lieu de care. C'est de l'immédiateté, même si ça peut se faire sur le temps long, c'est de l'immédiateté pour un nombre de personnes assez restreint. Et après, on s'est dit qu'on devait faire de la vulgarisation. Et dans cette vulgarisation, il y a une notion d'apprendre et de désapprendre les histoires qu'on nous a enseignées, soit à l'école, soit dans les médias, de se ressaisir de nos histoires coloniales, que ce soit du point de vue de la métropole ou du point de vue des peuples qui ont été colonisés. Et ça, en vrai, c'est un travail sur le temps long, parce qu'il faut, nous, qu'on désapprenne. Ça prend du temps, et une fois qu'on a désappris, bah, c'est quelque chose qu'on sait.
Quoi ? Alors, je crois savoir aussi que le collectif s'est créé à la fac du Mirail. Alors, une première question, moi je croyais que sa fac s'appelait l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Et ça depuis 2014, soit il y a plus de 10 ans. Alors je voulais savoir pourquoi cet attachement historique, politique et symbolique au nom du Mirail.
Alors nous, notre collectif, il s'est plus ou moins créé, oui, sur la fac du Mirail. Après une AG, il me semble, pour la Palestine, qui avait réussi l'exploit de ne pas mentionner une seule fois le mot racisme. Et donc une camarade a dit qu'elle en avait marre un peu de la gauche blanche, qui ne se préoccupait pas assez des questions de racisme et de colonialisme.
J'adore raconter cette histoire parce que à chaque fois les gens s'imaginent quelque chose d'extraordinaire. C'était beaucoup moins impressionnant que ce dont ça a l'air quand je le raconte. Mais du coup, en fait, ça s'est passé lors d'une AG, une AG de lutte, donc une assemblée générale qui a lieu à l'université. Et c'était une assemblée générale qui avait pour but, en fait, de faire se rencontrer, de créer des liens entre les étudiants donc de l'université, pour qu'ils puissent en fait se rassembler et lutter ensemble sur des thématiques qui leur tenaient à cœur. Il faut savoir qu'on était au lendemain de l'assassinat de Naël.
C'était surtout pour la Palestine,
oui,
cet AG aussi. Ouais.
C'était aussi sur le sujet de la Palestine. Et pendant une heure et demie du coup, d'AG, les étudiants se succèdent du coup, en bas de l'amphithéâtre pour prendre la parole. Et au bout d'une heure et demie, personne n'a abordé la thématique du racisme. Personne. Et je vous avoue que moi, j'étais juste venue regarder et en fait, ça a suffi à me faire sortir de mes gonds et, je suis descendue. J'avoue, j'avais rien préparé, juste moi et mes mots, et je suis descendue en bas de cette amphi. Et ce que je leur ai dit de manière très approximative, je leur ai dit, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible de parler de féminisme et de pas articuler avec l'émancipation des femmes noires. L'émancipation, pardon, des femmes blanches qui se fait au détriment des femmes noires. C'est pas possible de parler de la Palestine sans parler de colonisation. C'est pas possible de parler de violence policière sans parler de racisme. C'est même pas possible, en fait, de parler d'écologie sans parler d'écologie décoloniale. Et donc voilà ce que j'ai dit ce jour-là dans cette amphi, et puis en sortant, c'est là que j'ai rencontré les filles avec qui en fait on a fini par former le groupe Bamba et toi.
Voilà, du coup on a parlé pendant longtemps, on a parlé de nos cheveux, on a parlé de nos parents, on a parlé de nos amis blancs, on a parlé de plein de choses, et on a senti tout le besoin de parler ensemble librement et de réfléchir ensemble.
Et à la suite de cette intervention, a décidé de dire que les personnes racisées qui se reconnaissent dans ce que je dis me suivent. Et elle a été suivie par deux camarades qui sont encore aujourd'hui à Bambari Tfa. Après, en ce qui concerne le Mirail, moi je pense qu'il y a un attachement effectivement à une réputation d'un Mirail très de gauche, qui fait beaucoup d'AG, qui bloque beaucoup. Et donc avec ce point de vue extrêmement radical.
Quoi qu'il se passe, ce sera toujours la fac du Mirail. Quoi.
Voilà, c'est
même,
ça.
Même quand il n'y aura plus de fac, ça restera la fac du Mirail. Quoi. Et puisqu'on parle justement de remplacement par le nom, on va rester un peu dans cette logique. Le quartier du Mirail, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un projet de cité de la danse. C'est vrai que ce projet est dénoncé, notamment par le comité populaire d'entraide et de solidarité du Mirail, articulant des reproches sur la transformation en cours évidemment du quartier, parce que derrière la mise en avant de la culture, il y a une réalité liée à la modification de ce quartier au détriment de ses habitants et habitantes historiques. Alors est-ce que la création d'un établissement visant à attirer une nouvelle population, ça constitue une opportunité pour un quartier ou alors un effacement ?
Moi, je dirais que c'est déjà un petit peu le cas avec la fac de Toulouse-Jean Jaurès. Finalement, elle est en plein milieu du quartier du Mirail, mais quand on est à l'intérieur de la fac, on ne les voit pas, ces gens-là. Ou alors on les voit brièvement traverser parce que c'est plus rapide pour rentrer chez eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est un endroit où on leur fait une grande place. Et même moi, en fait, je ne suis pas d'origine toulousaine. Je suis arrivée à Toulouse pour mes études. Et j'ai appris que très tard, en fait, que le quartier, c'était un quartier populaire. Et donc oui, il y a forcément cet effacement. Et la question de la gentrification, elle est forcément au centre de préoccupation. Quand on fait ce genre de projet, il faut vraiment se poser la question de en fait à quel public ça va plaire ce qu'on amène, et est-ce que nous on a vraiment à cœur de se préoccuper des gens qui sont déjà là, ou est-ce qu'on va chercher un autre espace qui nous plaît, qui peut être aussi attractif en termes de que c'est moins cher de s'installer là, etc. quoi.
Tu l'as aussi rappelé quand tu parlais de l'historique, la création du collectif Bambari de Fave. En écoutant aussi une de vos interventions dans un podcast, l'une de vous a parlé de besoin, vraiment le terme besoin de rejoindre un collectif intersectionnel. Ce besoin, c'était quelque chose lié autour de la sororité, de la solidarité, un besoin peut-être aussi de sécurité.
Oui, alors la sécurité totalement, parce que je dirais que même dans des milieux de gauche, on n'échappe jamais vraiment aux micro-agressions racistes ou à des propos qui sont pas forcément plaisants. Mais après, moi je dirais que le besoin, en fait, quand on est tellement dans une société qui nous fait comprendre qu'être entre nous, ça va être du communautarisme, ou qu'il faut se mélanger à tout prix, l'universalisme, on voit pas les couleurs, etc. Moi, j'en étais arrivée à un stade où je me rendais même pas compte que j'en avais besoin. Et j'y suis allée plus par curiosité, et ensuite, je me suis rendu compte que, oui, j'en avais vraiment besoin de cet espace. Et on se rend compte que c'est un besoin personnel, c'est-à-dire qu'on a besoin d'espaces militants où on se sent en sécurité, à l'aise, mais on en a aussi besoin pour réfléchir, pour construire vraiment une pensée politique qui vienne de personnes concernées, avant d'en parler aux autres, quoi.
Et qu'est-ce qui fait que ça match finalement ? C'est-à-dire, toi, tu as peut-être ces questionnements, ce bouillonnement très, très personnel qui fait qu'on se confronte à la vie chaque jour. C'est lié aux personnes ou d'un coup, il y a un alignement des planètes peut-être ou...
Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je pense qu'avant de rejoindre le collectif, on avait tous et toutes envie de militer quelque part, envie d'être anticapitaliste, envie d'être féministe, envie d'être de gauche. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas, on peut pas effacer notre racisation. En fait. Et c'est ça, le fait d'être racisé. Et, en fait, quand on regarde dans Bambari de Fa, on n'est pas deux à avoir la même histoire. Il n'y en a pas deux qui viennent du même endroit, il n'y en a pas deux qui ont les parents des mêmes origines. Finalement, on se retrouve sur des choses qui sont complètement construites par notre société. En fait. Et c'est vraiment ça, être racisé.
Il y a quelque chose de très exotisant aussi, hein, dans la manière dont les gens ont tendance de nous demander nos origines. Hein. Parce qu'en général, on va dire que c'est des personnes... entre gros guillemets, qui sont bien intentionnés, qui vont venir en fait avec un racisme qu'ils ne conscientisent pas et qui vont en fait avoir des bonnes intentions, mais ne se rendent pas compte que en fait, bah oui, ils nous exotisent, ils attendent de nous qu'on leur réponde quelque chose qui ferait écho en eux à quelque chose de à l'étranger, à quelque chose de chaud, à quelque chose de coloré, qu'on va leur apporter une nouvelle culture. Enfin, il y a quelque chose de très exotisant et même, j'irai jusqu'à dire, fétichisant hein, quand on est aussi une femme.
Mais des collectifs ou des associations existaient avant, mais vous vous sentiez en décalage avec l'histoire, la mythologie, la narration de ces associations, quoi.
Quand on arrive sur Toulouse, les premiers collectifs, si on veut être de gauche, qu'on peut rejoindre, c'est pas forcément des collectifs antiracistes. Je dirais qu'ils sont... moi, il m'a fallu du temps pour les connaître. Voilà, hein, un petit message au collectif antiraciste aussi fait. Enfin, il faudrait qu'il y ait aussi un travail de vraiment se mettre plus en avant, même si c'est évidemment pas uniquement leur faute s'ils sont pas autant visibilisés que d'autres collectifs. Mais ça prend du temps de les connaître. Et parfois, ils ont un essoufflement, en fait. Enfin, il y a des collectifs qui existent depuis même 6 ans. On dira, oh, 6 ans, c'est pas grand-chose. Bah ouais, mais 6 ans, ça fait que ça remonte à une époque où c'était encore difficile de parler de race sociale. Les gens dans ces collectifs-là, ils sont complètement épuisés, ils sont complètement lessivés. Soit ils se retirent plus ou moins de la lutte, soit ils ont une fatigue où ils sont pas forcément prêts à accueillir d'autres personnes. Donc nous, et même c'est quelque chose qui se voit dans notre collectif, on est tous et toutes très jeunes. On milite au maximum depuis 4 ans. C'est peut-être aussi pour ça qu'on veut se retrouver entre nous, sans bien sûr mettre de côté d'autres collectifs avec lesquels on travaille avec plaisir, quoi.
Et vous y pensez, ça ? Vous en parlez entre vous du possible épuisement ? Il existe, hein, ouais. Le burn-out militant, oui, mais oui. Au-delà, je parle même pas de ça, je parle un peu de l'usure, tu vois.
Ouais, complètement. C'est même pour ça que, à la base, Bambari de Fa, c'était plus du care pour les personnes, soit qui sont... qui sont racisés, soit pour des personnes qui sont dans des milieux militants blancs et de gauche. Donc on a complètement conscience de cette question de l'épuisement. Et en plus, on l'a plus ou moins vécu pendant le mois de février, quand on a fait le mois des histoires coloniales, en essayant en fait de se calquer un peu sur le principe états-unien du Black History Month, mais en se disant qu'en fait... enfin, la question noire n'était pas forcément exclusive aux histoires coloniales, pour le calquer en France, c'était mieux de parler d'histoire coloniale. Et en fait, on a fait beaucoup de choses et on s'est épuisé parce qu'on n'était pas, nombreuses. Maintenant, ça va mieux parce que justement, on a réussi justement à visibiliser le collectif grâce à ce mois notamment. Et donc, on a plus de membres, mais en fait, c'est pareil, c'est qu'on choisit de se mettre en non-mixité pour avoir cette réflexion, pour avoir cette entre-soi, entre guillemets. Mais du coup, on est moins nombreux.
La hagra récolte l'intifada. J'ai dit qui sème la hagra récolte l'intifada. Et des pédenza pour tous les peuples en lutte. Une pensée pour nos hermanos gazaouis sous blocus. Violentia légitime face aux sionistes et aux nazis qui assassinent impunément les dirigeants. Reste assis et colons. Construire sa vie sur une terre spoliée, c'est vivre sans humanité parmi les damnés. Palestine debout, tout mon soutien. Même si parfois j'ai l'impression qu'on s'égosite dans les guêpes. Nos positions des blesses sont qualifiées de radicales. Mais comme les séminoles, on lâche rien. Demande à Midja qui ne retiennent que nos réactions. Et comme la provocation qui passe second plan, les exactions de l'oppression. C'est l'art de faire l'impasse sur un drame qui nous terrasse. Cracher son mépris à la face de l'opprimé soudain. Ça fait boycott, désinvestissement,
sanctions, arrêt des bombardements et de la colonisation.
Qui sème la hagra récolte
l'intifada. Qui commet des massacres, on répondra de route.
Des boycotts, des investissements,
sanctions, arrêt des bombardements et de la colonisation.
Qui sème la hagra,
récolte l'intifada.
Qui commet des massacres,
on répondra de route.
Alors tu l'as dit, des ambitions, c'est la vulgarisation. Il y a des termes qu'on ne questionne plus, toi, dans le milieu militant et voire là, de ce cercle. Je pense notamment à des termes plutôt communs maintenant comme racisé. Et à l'occasion d'une table ronde avec des psys situés noirs, une intervenante avait utilisé l'expression, d'ailleurs je vous ai entendu l'utiliser également, racialisé positivement ou racialisé négativement. Je voulais savoir ce que t'en pensais, si tu voyais une légère différence, subtilité, toi, ou nuance.
Bah en fait, je dirais que racialiser négativement est la définition de raciser. Mais racialiser positivement, c'est une manière qu'on a de dire que on peut pas tout à fait dire que les blancs n'ont pas de race. Au sens où quand on voit, enfin, les personnes blanches ne se perçoivent pas comme blanches, mais nous, quand on voit des blancs, on va leur attribuer certaines caractéristiques du sérieux, de l'intelligence, de la propreté, etc., etc., de l'argent. Bon. Et donc, du coup, on ne peut pas tout à fait dire que ces personnes n'ont pas des stéréotypes qui leur collent. Simplement, ça ne va pas être négativement, quoi. Voilà. Mais j'avoue que moi, j'utilise assez peu le terme « racialisé positivement », parce qu'en général, on dit « blanc », simplement, et après, on dit que ces personnes ont des privilèges, quoi.
Ouais, ça le ramène à un positionnement en dehors de problèmes d'oppression systémique.
Oui, voilà,
là,
c'est
pour
ça.
Le coup, c'est appuyé sur des stéréotypes de domination qui deviennent positifs.
Oui, c'est ça.
Via les privilèges.
Oui,
en fait,
et puis en plus, c'est quelque chose qui a été construit par la blanchité elle-même. C'est-à-dire que les personnes racisées ne se sont pas dit nous sommes sales, nous sommes sauvages, nous sommes alcooliques, etc. C'est les personnes blanches qui ont déterminé ça, des personnes racisées. Alors qu'à l'inverse, ce sont les blancs qui se sont positionnés eux-mêmes comme plus moraux. Avec, par exemple, un simple exemple, mais dans la colonisation, il y avait une mission civilisatrice. On ne peut pas aller civiliser des gens si on n'est pas plus civilisé qu'eux, quoi. Donc, voilà.
Commençons par le document, qui est un texte fondamental lorsque l'on parle de la colonisation française. Il s'agit d'un discours de Jules Ferry de 1885. À ce moment-là, Jules Ferry était ministre des Affaires étrangères ainsi que l'équivalent de Premier ministre. Il fait ce discours devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'ensemble des députés qui font les lois. Pour Jules Ferry, la colonisation est liée à trois types d'idées. Des idées économiques, civilisationnelles et patriotiques. La colonisation serait positive car elle permettrait aux Français d'apporter la civilisation dans les endroits où elle n'existait pas. C'est un point de vue éminemment raciste. Jules Ferry dit, je cite, « Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. » Pour lui, c'est une bonne chose, c'est même généreux, que la France vienne en Algérie, car elle apporterait la civilisation à des barbares. C'est un devoir qu'aurait la France en tant que race supérieure. Ce point de vue est appelé la mission civilisatrice. Cet argument est souvent utilisé encore aujourd'hui par certaines personnes qui disent que la colonisation est une bonne chose. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la colonisation était positive, car c'est clairement un rapport de domination des Européens sur les colonisés. Comment est-il possible que l'on garde en mémoire un personnage pareil ? Comment est-il possible que des rues et des écoles portent son nom ? Il s'agit de choix politiques. Étant donné que Jules Ferry pensait comme la majorité des gens de l'époque, on a décidé de mettre de côté sa vision raciste.
Il y a une expression que j'aime bien, je ne sais pas si elle existe, c'est la politique du ressenti.
Bah, le ressenti, notamment, c'est ce qu'on critique énormément quand on parle des féministes, enfin des fémonationalistes de Némésis, c'est-à-dire des féministes d'extrême droite qui instrumentalisent la question féministe à des fins racistes. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que les personnes d'extrême droite, de manière générale, les chiffres et les faits, ça les dérange. Parce que ces chiffres et ces faits vont en fait à l'opposé de ce qu'elles disent. Et donc quand on les met face à la contradiction de, bah, en fait, regardez, on vous dit que 90% des viols ont lieu dans la sphère familiale, conjoint, ex-conjoint, beau-père, père sur les enfants, etc. Comment voulez-vous que ce soit que les Noirs et les Arabes ? Ça n'a aucun sens. Et donc du coup, ces personnes vont vous dire, oui, mais nous, c'est un ressenti. Voilà. Et en fait, ce ressenti, il permet de chasser les statistiques d'un revers de la main et de pouvoir dire tout et son contraire, de pouvoir contredire la science les yeux dans les yeux. Et en plus de cela, le ressenti permet en fait à beaucoup de gens qui ont déjà des a priori racistes de se dire, plutôt que de se dire « je crois que j'ai un a priori raciste, il faudrait que je travaille là-dessus pour le déconstruire », se dire « j'avais bien raison ». Mathieu Burgalassi, qui travaille beaucoup sur l'extrême droite, qui dit qu'on fait... En fait aussi, il y a une question aussi de la perception de la violence. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est assez peu exposé à la violence, le moindre fait de violence va vous sembler disproportionné, alors qu'il y a des personnes qui subissent des agressions de manière quotidienne qui ne qualifient même pas ça d'agression. Et en fait, si vous les sondez, si vous les appelez au téléphone et que vous leur dites « Avez-vous été victime d'une agression cette semaine ?», cette personne qui s'est fait cracher dessus dans la rue en se faisant traiter avec une insulte raciste va vous dire « Oh non !» Alors que quelqu'un à qui on va être passé devant dans la queue d'un Lidl en lui disant « Pousse-toi, je sais pas quoi », va dire « Ah oui, oui, un arabe m'a dit ça, etc. » quoi.
C'est nous la France périphérique, toujours au centre du débat. On rend le pays féerique avec les centres de Demba. Quand on fait la une de l'équipe, on est des fiertés nationales. Mais dans les contrôles de routine, on est des ramasseurs de balles. Mais tu veux savoir c'est quoi le comble ? C'est que ce soir on fait ça le comble. Mais que demain, face aux gendarmes, ça peut vite tourner. On est au drame parce que quand un français est con, on dit que c'est un sale con. Mais quand un arabe joue au con, on dit que c'est un sale arabe. Et lorsqu'un flic tue un noir, les racistes appellent ça du sport. Et quand un noir pousse un keuf, ils parlent tous d'animal féroce, d'indigène, antéenne Lacoste. Ils volent aux Français leur travail. La violence a plusieurs visages, celle d'un flingue ou celle d'une cravate.
On parle d'où l'on est, c'est vraiment le point de vue situé. D'ailleurs,
oui.
Toi, quand tu t'es présenté, vous le faites souvent, t'as dit « je suis un tel et je suis perçu comme
oui. ».
Je me suis dit « est-ce qu'il y a une politique de la perception ?»
Bah oui, en vrai, c'est vraiment le fait d'être... c'est ce qu'on décrit sur le fait d'être racisé. Parce que finalement, ça ne veut rien dire de plus de nous que ce que les gens perçoivent, en fait. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent « mais pourquoi vous parlez de race ?» Parce que ce serait raciste de parler de race. Mais justement, nous, on ne parle pas de race biologique, on parle de race sociale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est entre autres la manière dont on est perçu qui va nous reléguer à certains rangs de la société, quoi.
La notion de violence, par exemple, tu vois. Puisque tu vas percevoir un événement en fonction de ta construction culturelle, de tes stéréotypes.
Oui, c'était là-dessus que je voulais dire, c'est que... Il y a la perception, il y a le ressenti, mais c'est que nous-mêmes, quand on parle de violence raciste, après on va aussi regarder quelles sont les statistiques par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas non plus uniquement se baser sur notre ressenti. Nous, si on parle d'islamophobie, de négrophobie, d'antisémitisme, c'est parce qu'on regarde des chiffres et qu'on se dit « ah oui, il y a quand même un problème, quoi ».
Il y a des chiffres ?
Oui, il y a des chiffres, ouais. Il y a des chiffres de la DILCRA, donc de la délégation de lutte contre l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils séparent le racisme et l'antisémitisme, mais bon, voilà quoi. Après, il y a aussi des chiffres propres au syndicat du travail, etc. quoi.
Parce qu'en France, je crois, c'est quoi, les statistiques ethniques sont...
Les statistiques ethniques sont interdites, ouais. Oui, effectivement.
Que ça permettrait aussi quand même d'éclairer beaucoup de situations, je trouve, malgré tout, quoi.
Ah bah complètement, mais ça c'est la manière dont on a dévoyé l'universalisme. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, il y a des gens qui pensent qu'on est anti-universaliste, mais ce qui est pas le cas, c'est-à-dire que nous, on est pour l'universalisme dans l'idéal qui a été construit par la pensée des Lumières, mais factuellement, il n'a jamais été appliqué en fait. Il a juste été le bras armé, cet universalisme, de la mission civilisatrice et de se dire on va donner notre culture à tout le monde, comme ça tout le monde sera pareil, factuellement, puisqu'on aura colonisé la moitié de la planète et que tout le monde parlera notre langue. Et l'universalisme aujourd'hui n'a plus forcément cette fonction, mais il va avoir la fonction de l'assimilation. Donc les personnes qui arrivent en France doivent apprendre notre langue, apprendre notre culture, effacer leur langue, leur culture, leur histoire, et on ne voit plus la différence. Une fois que ces différences culturelles auront été effacées, on effacera aussi les différences sociales, ce qui est faux. C'est-à-dire que même pour des personnes qui sont... Moi, par exemple, j'ai été adoptée. Je ne sais quasiment rien du pays où je suis née. Enfin, si on veut être un peu mesquin, il ne me reste de noir que la couleur de peau. Et pour autant, je suis quand même victime de racisme. Donc c'est pas vrai qu'une fois qu'on aura effacé toute la différence culturelle qu'il peut y avoir, entre guillemets, hein, parce que tous les territoires qu'on a colonisés, on leur a aussi très 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 largement imposé notre culture. Oui.
Et puis en plus, c'est quoi le but ultime, en fait, c'est de te considérer comme citoyenne quoi, française Enfin, est-ce que vraiment c'est pertinent dans le regard des gens, que tu sois française ou pas, t'es pas perçue comme française, enfin...
Ouais, non mais je dirais que oui, non mais... En fait, on a tout simplement pas aboli la race sociale. Et l'universalisme nous dit l'inverse. Il nous dit, c'est vous les personnes racistes, c'est vous les antiracistes et les décoloniaux qui remettez le sujet sur la table alors qu'aujourd'hui, on ne voit pas les couleurs. Ce que contredisent les statistiques.
Sans réponse à mes questions, sans appel sera la déception. J'ai beau brailler, j'ai pas les mots pour qualifier mes émotions. Réservée, maladroite, avec la peur d'être ce que je suis sevrée de l'amour des autres à force de croire que je me suffis. Suffisamment bête pour m'obstiner dans les soucis. Ce que je suscite devient le mystère d'un manque de confiance assouvi. Sous vide, on vend la viande, on vend les corps, on vend les formes des femmes aux normes. L'énormité de mon reflet se base que sur des photos de mode. Et moi, je prétends m'en foutre de ça, hein. Je prétends m'en foutre de ça, je prétends passer au-dessus du poids, je prétends être pur dans mon peurage. Des bords d'un jean autant que d'un cadre, on me verrait quand même malgré moi. Tout me glisse dessus, j'ai la place de l'adolescence. Y'a des traumas qu'on vit même plus, ça me fait plus rien quand je les chante. J'ai divisé mon esprit, brisé les moindres ressentis. J'ai gratté ma peine sur le papier au point de froisser ce que je vis. Mais dis-moi qui je suis, dis-le-moi sincèrement. Car à chercher pendant tout ce temps, j'observe mon reflet camèrement. Mais dis-moi qui je suis, dis-le-moi sincèrement. Car à chercher pendant tout ce temps, j'observe mon reflet camèrement. Je rêverais d'anarchie en frôlant le burn-out. Je crèverais l'unité en comptant les feuilles mortes. Je sais même qu'à moi-même, je fermerai la porte. Je déteste les contradictions autant que les erreurs qui m'escortent. Alors. Alors. Alors quoi? Alors quoi, hein? Alors on trash, connard, on crache notre histoire. On n'est pas là pour être aimé, on est venu pour se venger. On craquera l'allumette, on cramera la tise et les bêtes. Et dans tout ça, on chialera pour les potes enfermés au Hebs. On trash, connard, on crache notre histoire. On n'est pas là pour être aimé, on est venu pour se venger. On craquera l'allumette, on cramera la tise et les bêtes. Et dans tout ça, on chialera pour les potes enfermés au Hebs. La violence dont tu parles restera sur le pas de ma porte. Évidemment qu'on est plus forte, on a l'histoire de notre côté. Pour avaler les shots, on a l'espoir des dominés, les cheveux gominés. Et à force de pas te heurter, t'es resté dans le passé. Les gosses de colonisés viendront te tapisser le portrait. On n'a plus peur de vos méfaits, d'être des meufeux, de mettre le feu et rendre les coups autant qu'on peut. Ouais, rendre les coups autant qu'on peut. Parce qu'on a la dalle bien plus souvent que la rage. Parce que la honte se transmet aussi facilement de père en fille. Toujours sur le fil, je suis qu'à deux doigts de briller. On est qu'à 10 mois d'écart entre les mandats et les paquets. Les parloirs, les lettres, les cauchemars, le mal de tête. C'est à la haine qu'on se nourrit quand on vient piquer notre assiette. Bouge de là. Alors on crache les connards, on crache notre histoire. On n'est pas là pour être aimé, on est venu pour se venger. On craquera l'allumette, on cramera la tease et les bêtes. Et dans tout ça, on chialera pour les potes enfermés au Hebs. On crache les connards, on crache notre histoire. On n'est pas là pour être aimé, on est venu pour se venger. On craquera l'allumette, on cramera la tease et les bêtes. Et dans tout ça, on chialera pour les potes enfermés au Hebs. Alors on crache les connards, on crache notre histoire. On n'est pas là pour être aimé, on est venu pour se venger. On craquera l'allumette, on cramera la tease et les pêtes. Et dans tout ça, on chialera pour les potes enfermés au Hebs. On crache les connards, on crache notre histoire. On craquera l'allumette, on cramera la tease et les pêtes. Et dans tout ça, on chialera pour les potes enfermés au Hebs.